France Culture, Avoir raison avec Maria Montessori, par Louise Touret.
Et pour ce cinquième épisode, on va se demander où se pratique la pédagogie Montessori aujourd'hui en France. Alors, où et comment enseigne-t-on selon les principes édictés par Maria Montessori ? Comment expliquer la popularité de la pédagogie Montessori auprès d'un public privilégié alors qu'elle a été développée au départ pour des enfants pauvres dont les parents étaient très peu instruits ? Comment ont évolué les manières de faire à travers le temps et sont-elles toujours en accord avec les idées de Maria Montessori ? Mais surtout, pourquoi cette pédagogie ne s'est-elle pas davantage diffusée en France ? Bonjour Nadia Hamidi.
Bonjour.
On s'est déjà vu pour l'épisode 2, vous êtes présidente, je le rappelle, de l'association Montessori de France. Vous enseignez également dans une école que vous dirigez à Nice, une école privée hors contrat, comme beaucoup d'écoles Montessori. Et ça, on va en parler aujourd'hui. Bonjour Bérangère Colli.
Bonjour.
Vous êtes toujours maîtresse de conférences en sciences de l'éducation à l'Université Paris-Est, Créteil, depuis l'épisode 2. Et vous avez beaucoup écrit sur Maria Montessori. Avec nous également Armelle Perron. Bonjour.
Bonjour.
Vous présidez l'association publique Montessori, une association qui vise eh bien, à diffuser la pédagogie Montessori dans les écoles publiques. Première question, comment et pourquoi ?
Alors, je vais commencer par le pourquoi. Pourquoi seulement dans le privé ? C'est la question qu'on s'est posée au départ de cette association. L'idée est venue de trois enseignants qui se sont formés à la pédagogie Montessori. Et qui se sont dit, mais il faut absolument que ça se diffuse beaucoup plus dans le public. Et c'est possible parce qu'ils en ont fait l'expérience. La loi 1905, mais ça date de bien plus avant, rappelle la liberté pédagogique de chaque enseignant dans sa classe, dans le respect des programmes et des instructions officielles. En tout cas, on a cette liberté pédagogique dont on veut se saisir. Et quand on voit la joie avec laquelle les enfants viennent à l'école, dans les écoles Montessori, et donc maintenant dans le public de plus en plus. On peut seulement se dire pourquoi c'est pas diffusé plus ailleurs, et donc c'est notre combat. C'est de dire Montessori dans le public, c'est possible. Donc voilà le pourquoi et le comment. Pour que ça puisse se diffuser au maximum, c'est rassemblons-nous. Disons à tous ceux qui en ont entendu parler et même aux autres que ça existe et qu'on peut les aider, qu'on peut les accompagner. Parce que c'est une pédagogie qui est compliquée à mettre en place, qui requiert une formation longue, une formation coûteuse, qui est quasiment inexistante dans le public, telle qu'on en a besoin pour être pratiquant de la pédagogie Montessori. Elle nécessite aussi l'achat de matériel qui est aussi coûteux, mais durable. Donc, il faut changer le paradigme d'achat du matériel, c'est-à-dire on investit pour 10 ou 15 ans, mais en une seule fois, au lieu d'avoir des budgets annuels. Et puis, ça nécessite aussi des conditions particulières, telles que le multiniveau, c'est-à-dire une tranche d'âge sur plusieurs années. Ça nécessite du coup aussi un suivi d'élèves. Et donc ça, c'est que des paradigmes qui n'existent pas ou très peu dans l'éducation nationale. Donc l'idée, c'est de porter ces idées le plus possible. Et c'est pour ça qu'on a créé cette association en 2015.
Alors, vous parliez du coût du matériel, du coût de la formation. Évidemment, ça se reporte sur le coût des écoles. Et c'est cette différence privée public qui saute souvent aux yeux quand on parle d'éducation Montessori.
Une méthode active qui a toujours plus d'adeptes. Voilà 10 ans, ils étaient 7 enfants dans la maison du couple fondateur de la structure. Aujourd'hui, après 2 déménagements, plus de 80 têtes blondes ou brunes, dont les parents sont prêts à débourser entre 3 000 et 8 000 euros par an.
On a des coûts qui sont basés sur le quotient familial des familles. Mais ça reste quand même un coût important et on a beaucoup de familles qui du coup font le choix d'investir dans l'éducation de leurs enfants et dépenser moins, de ne pas aller en vacances ou d'avoir un petit appartement.
Des prix, on l'a entendu, assez élevés. Est-ce que c'est le cas dans votre école, Nadia Hamidi ?
Oui, c'est le cas dans mon école. C'est une école privée hors contrat. Donc, on n'a pas d'aide de l'État. Les frais de scolarité paient les enseignants, le matériel, le loyer, les formations continues. Les frais de scolarité ne sont pas pour enrichir ceux qui montent les écoles. C'est vraiment pour faire vivre l'école.
Et pourquoi ne pas passer sous contrat, ce qui baisserait, à défaut de devenir une école publique, baisserait les frais de scolarité?
Moi, mon école, ça fait pas si longtemps qu'elle existe, avec 2 ans et demi, mais on y pense. Pour cela, il faut que les enseignants soient formés de l'éducation nationale. Donc, c'est un critère. Maintenant, c'est vrai que si on est sous contrat, on se doit de répondre au cadre de l'éducation nationale. Donc, va restreindre notre liberté pédagogique. Et donc, on n'est pas forcément prêt à le faire, puisque c'est quand même la base de la pédagogie, c'est la liberté. Donc, si on choisit de créer une école Montessori, on veut vraiment pouvoir la créer avec les critères de l'environnement préparé de Maria Montessori.
Et justement, c'est ça qui bloque. Alors, vous allez m'expliquer comment vous faites dans le public, Armelle Perron, puisque pour Montessori, il y a une idée d'autonomie de l'enfant, il y a une idée de progression qui correspond pas à celle des programmes de l'éducation nationale, une idée de posture aussi de l'adulte vis-à-vis de l'enfant qui est pas dans la tradition qu'on connaît. Alors, même si on a aussi une liberté pédagogique dans l'école publique, est-ce que il y a pas aussi un choc des cultures? Et comment vous le...
Ah oui, c'est un vrai choc des cultures. On peut vraiment dire ça. Mais après, moi, je réfléchis pas pour l'institution, je réfléchis pas pour les collègues, je vois juste l'objectif de l'enfant, donc du futur citoyen et de la société que j'ai envie de voir construire. Et donc, avec cet unique objectif, on change complètement le... Enfin, on se met dans une sorte... Je sais pas, c'est une bulle, parce qu'on aimerait que ça puisse faire des émules, mais au départ, il faut vraiment se protéger de toutes les critiques et avoir confiance en soi. Et c'est pour ça l'idée de se rassembler, c'est ce soutien hyper important entre enseignants et avec l'aide de tout le monde montessorien, en fait, on se sent vraiment soutenu. C'est-à-dire qu'on est constitué en groupes départementaux sur toute la France et dans les dom-tom, où on se rassemble régulièrement, au moins une fois par mois à peu près, dans chaque département. Enfin, pas tous les départements encore, mais c'est notre objectif. Mais aussi, on organise des conférences avec Bérangère Colli, avec plein d'intervenants qui vont venir soutenir notre démarche. Donc la question, c'était, on se heurte à beaucoup d'incompréhension vis-à-vis des collègues de la hiérarchie. Donc moi, je suis toujours une petite voix qui me dit, va là où tu vas pouvoir semer ton projet. Il y a plein d'endroits où ça va être possible et cherche cet endroit-là. Et donc là, par exemple, maintenant, je suis dans une école dans le 18e arrondissement de Paris et ça a été possible de créer un environnement propice au développement de la pédagogie Montessori. Et je sais que c'est pas partout possible.
Mais pour vous, c'est important d'être dans l'école publique?
Ah ben moi, je ne travaillerai nulle part ailleurs que dans l'école publique, parce que l'idée, c'est d'offrir cette pédagogie merveilleuse à absolument tous les enfants, en assurant la gratuité de cette pédagogie. Alors bien sûr, les écoles privées nous sont utiles parce qu'elles sont comme des guides. C'est nous, on sait comment, quel est notre objectif, puisqu'on sait comment ça fonctionne quand toutes les conditions montessoriennes sont réunies. Et puis c'est un lieu de ressourcement, c'est un lieu de formation aussi mais moi, mon idée, c'est vraiment un jour, le rêve, c'est que ce soit disponible pour tous ceux qui ont envie. Et j'ai pas envie que toute l'école publique devienne montessorienne, parce que je sais que c'est pas une pédagogie qui convient à tout le monde. Ça demande aussi un changement profond de posture, c'est-à-dire une humilité totale, un regard sur l'enfant qui est totalement différent de beaucoup d'enseignants. Et l'idée, c'est pas de transformer tout le monde, mais au moins de nous laisser la place et laisser la place à tous ceux qui veulent le faire. Donc laisser la place, ça veut dire nous permettre de nous former gratuitement dans la formation prévue pour les enseignants, nous permettre d'acquérir du matériel gratuitement. Jusqu'à présent, la plupart des enseignants qui se mettent à Montessori payent leur formation avec leurs propres finances personnelles, c'est le cas, c'est mon cas. Donc ça, c'est complètement inimaginable, c'est-à-dire qu'on va travailler. Moi, par exemple, personnellement, j'ai mis 15 000 euros dans ma formation et dans le matériel pour pouvoir travailler avec la pédagogie que j'ai choisie. On peut me répondre, t'aurais pu choisir autre chose, voilà, mais c'est pas celle qui me semble la plus adaptée, et voilà.
C'est pas la première fois que j'entends des enseignants qui racontent avoir investi avec leur denier personnel pour l'aménagement de leur classe et dans des buts pédagogiques. Parfois, c'est pour des très petites choses même. Acheter des feutres. Mmh. Donc là, vous soulevez une situation qui est commune, mais qui se trouve, dans votre cas, évidemment, beaucoup plus importante, vu les montants engagés. Bérangère Colli, je voudrais revenir avec vous sur un peu l'histoire du mouvement Montessori en France, parce que cette pédagogie qui a été peut-être plus mise en lumière au XXIe siècle, pour aller vite, a tout de même continué à exister dans les années 60, 70, 80. Dans ces périodes-là, qui pratiquait et où pratiquait-on la pédagogie inventée par Maria Montessori ?
Alors, c'est vrai que jusqu'à il y a une quinzaine d'années, on peut dire que le mouvement montessorien était plutôt confidentiel, dans le sens où il y avait très peu d'écoles. Ce qu'on peut dire cependant, et il faudrait faire attention aux faux amis peut-être, c'est-à-dire que l'école publique de 2023, c'est pas l'école publique de 1923 ou même d'avant. C'est-à-dire que même si la pédagogie Montessori, on a la sensation qu'elle n'entre pas dans l'école publique, il faut quand même savoir qu'il y a eu énormément d'influence, qu'il y a eu énormément d'assouplissement, qu'il y a eu énormément de... Alors j'aime pas ce terme d'innovation, mais en tout cas, il y a eu des modifications de pratiques. Et... au début des années 50, lorsque Georgette Bernard, qui est une des fondatrices de l'association Montessori de France, écrit à Mario Montessori pour faire un petit peu un état de qui fait du Montessori en France.
Mario Montessori, c'est le fils.
Le fils, voilà, le fils de Maria Montessori.
Et son héritier spirituel et intellectuel aussi.
Voilà, qui gérait en fait le mouvement international. Elle lui écrit donc pour faire un état des lieux. Et elle dit, il y a une dizaine d'écoles strictes. Mais pour le reste, elle dit jardin d'enfants, école maternelle, tout le monde fait du Montessori hybride, tout le monde fait du Montessori panaché. Elle dit c'est du panachage. Donc ça veut dire que déjà dans les années 50, il y avait énormément de pratiques qui avaient diffusé en réalité dans l'école publique.
Et par la suite, puisque moi je vous parlais des années 70-80, qui sont aussi des années d'innovation pédagogique, 70 parce qu'on est dans la roue de mai 68, et 80 parce que avec le plan Lang, Jack Lang qui fut ministre de l'Éducation, a souhaité la liberté pédagogique des enseignants. Donc est-ce qu'il y a eu à ce moment-là aussi un frémissement du côté montessorien ?
Alors, c'est une période que je connais un petit peu moins en tant qu'historienne, si je peux utiliser ce terme. Je ne sais pas si je suis une vraie historienne, mais en tout cas, c'est une période que peut-être je connais moins. La sensation que j'ai, ou l'hypothèse qu'on pourrait faire, c'est que jusque dans les années 70, au contraire, il y a des liens qui se font entre le public, le privé, le mouvement montessorien qu'on pourrait appeler strict, disons le mouvement montessorien lui-même, et puis d'autres partenaires. En revanche, après 1970, alors aussi pour des raisons internes au mouvement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins d'échanges et que c'est beaucoup plus étanche. Alors, qui pourrait paraître contre-intuitif, justement, j'ai l'impression que c'est plutôt dans les années 70-80, il y a plutôt une étanchéité qui se fait et il y a moins de circulation, peut-être une circulation qui revient aujourd'hui, et c'est sans doute tant mieux.
Alors, une autre chose me surprend quand je m'intéresse à la pédagogie Montessori, c'est qu'on a vu fleurir beaucoup d'écoles maternelles et on parle beaucoup des petits, mais la pédagogie Montessori, dans sa pensée et dans sa pratique, ne s'arrête pas à 6 ans. Pourquoi, selon vous, on parle beaucoup moins de Montessori pour les plus grandes classes, sachant qu'on peut aussi avoir des collèges Montessori ? Armelle Péron.
Dans le public, pourquoi c'est plus compliqué ? Effectivement, nous, dans notre mouvement, on est, je vais dire, à 80% d'enseignants d'école maternelle, mais ça commence à prendre sérieusement dans les classes élémentaires. Les difficultés sont encore plus lourdes. On a toujours donc la formation qui était plus que rare il y a encore quelques années.
Tu me diras 2004. Voilà, la première formation.
Ça, c'est Nadia à midi.
Pour les reprend. Pour 6-12 ans, la formation 6-12 ans, donc la première en France a eu lieu en 2004. Donc c'est très très récent. Avant, il fallait aller en Suisse.
En Suisse, traduit en français.
Voilà. Donc déjà, la formation, elle est plus longue, elle est plus chère. Et après, dans l'accueil dans les écoles, les attentes sont beaucoup plus grandes de la part des parents, de la part des inspecteurs, de l'institution de façon générale. Et surtout, on laisse peu de temps à l'enseignant pour pouvoir lancer sa pédagogie. Ça prend du temps. Il y a quasiment pas de... Enfin, c'est très, très compliqué d'avoir des multiniveaux. Alors que les instructions officielles parlent de travail en cycle, c'est-à-dire quand on a entendu travail en cycle, on s'est dit waouh, ça y est, il y a une compréhension de c'est important de laisser du temps à l'enfant. Et les cycles en plus correspondent exactement au cycle montessorien.
Donc les cycles dans l'éducation nationale, c'est par exemple l'idée qu'il y a un cycle 1 en maternelle, mais ensuite un cycle qu'on engage à la grande section et on commence l'élémentaire. Et ensuite un autre
cycle 3 pour la fin de l'école élémentaire.
Jusqu'en sixième.
Et qui inclut la sixième. Que en fait ces cycles, si les parents ne les connaissent pas. Forcément, c'est parce qu'ils ne correspondent pas du tout aux césures maternelles, élémentaires et collèges.
Au fonctionnement des écoles élémentaires en général, oui. Et puis l'idée, c'est vraiment de... L'institution a besoin de s'assurer très régulièrement de l'avancée des acquisitions d'apprentissage de la part des enfants. Par exemple, en CP, on a maintenant des évaluations. On va en avoir une en CM1 l'année prochaine, une en CM2. Une en grande section.
Ce sont les évaluations nationales.
C'est-à-dire que, par exemple, en CP, tous les 6 mois, les enfants sont évalués. Et ça ne correspond pas du tout à la façon de faire en Montessori, où on laisse le temps à l'enfant. Et on peut très bien se dire, pendant 6 mois, il va être concentré sur les apprentissages en mathématiques et laisser un petit peu plus ce qu'on appelle le langage, enfin le langage écrit, donc l'écriture, la lecture. Et donc, on a une grande confiance dans l'enfant qui fait que, quel que soit le nombre d'années qu'il lui faudra, de toute façon, il y arrivera. Et ça, ça n'a rien à voir avec ce qui peut se faire dans les classes de l'école publique où en 6 mois, il n'a pas appris à lire, c'est la catastrophe.
Et même peut-être dans l'esprit de beaucoup de parents et d'éducateurs, Nadia a mis d'y avoir raison avec Maria Montessori. Est-ce que ça marche mieux pour les petites classes du côté des parents? Et puis au fur et à mesure qu'on avance dans la scolarité, on a envie de se rapprocher d'un système plus traditionnel et qui correspond plus aujourd'hui à ce que la société attend des enfants en termes de résultats, mais aussi de sélection, parce que c'est ça aussi qu'on fait à l'école.
En fait, les parents qui viennent dans les écoles Montessori, ils ont eux-mêmes une démarche différente par rapport aux attentes. Alors, c'est pas, ils veulent quand même que les enfants apprennent et voir des résultats, mais ils ont confiance en leur enfant. Et donc, et puis surtout qu'ils ont déjà commencé au premier cycle, en maternelle, en 3-6, et ils voient que, l'enfant, en 3-6 ans, l'enfant, il sait lire, il déclenche la lecture à 4 ans, il sait faire des grandes opérations à 5 ans. Donc, ils voient que, de toute façon, leur enfant avance. Donc en classe élémentaire, ils font confiance et ils voient bien que l'enfant apprend. Il apprend par lui-même, c'est-à-dire que l'enseignant est là pour lui donner le matériel pour que l'enfant puisse développer ses compétences, mais on n'est pas face à l'enfant, on a une posture complètement différente. C'est-à-dire que l'enfant, par la manipulation, on revient toujours à ce matériel, va pouvoir ordonner sa pensée et apprendre et avoir les acquisitions nécessaires, que ce soit en géographie, en biologie, et on a un retour avec les parents beaucoup plus important que dans l'école traditionnelle. C'est-à-dire que on va avoir des réunions individuelles avec les parents. On va parler de l'enfant pendant une demi-heure, 3 fois par an, voire 4 fois par an.
Mais ces résultats, on les obtient aussi parce que les parents qui sont prêts à assister à autant de réunions et à payer si cher pour la scolarité de leur enfant sont des parents extrêmement investis, Nadia Hamidi.
Non, je suis désolée de vous le dire, mais non. C'est des parents qui travaillent énormément, donc ils viennent aux réunions. Alors, c'est pas toujours les deux parents, mais nous, on les oblige, hein, ça fait partie du règlement intérieur. On travaille en collaboration. Mais souvent, les parents n'ont malheureusement pas le temps de suivre leur enfant. Et justement, ils payent si cher, comme vous dites, et donc ils veulent le résultat, parce que derrière, eux n'ont pas le temps de reprendre des choses ou de travailler avec l'enfant. Donc, nous, on se doit de les accompagner et de les aider dans la classe. Et souvent, je dis d'ailleurs aux adultes, quand il y a des difficultés avec certaines familles ou certains enfants, parce qu'ils disent, oui, mais tu te rends compte, mais ses parents à lui, ils font ça. Et je leur dis, mais qu'est-ce qu'elle faisait, Maria Montessori? Comment elle a débuté? Les parents, c'est leur travail. Leur travail avec leur enfant à la maison. On peut les aider, les accompagner, certes. Mais nous, notre travail, c'est dans la classe qu'on doit le faire. Notre accompagnement physique, psychique, social, il se fait dans la classe, pas en dehors de la classe.
Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que cette question, elle taraude l'école en général et l'école publique. C'est-à-dire, finalement, que faire des enfants? Alors, évidemment, on imagine que le public le moins privilégié fréquente tout de même pas votre école, Nadia Hamidi, mais que faire des enfants? Comment éduquer au mieux des enfants qui arrivent moins acculturés à ce que demande l'école, puisque c'est là que se fait la différence? On répète souvent cette vérité sur l'école française, elle reproduit très bien les inégalités sociales, voire les renforce.
Bah ça, c'est un de nos leitmotivs, en fait. Moi, quand... je vois des enfants qui, justement, n'auraient pas eu la chance de passer par nos classes, ou dans mes classes, parce que je peux parler de... je me dis, chaque jour, je regarde ces enfants. Moi, je suis dans une école de réseau d'éducation prioritaire. Donc, c'est typiquement deux tiers de la classe qui n'auront jamais les moyens familiaux pour aller dans autre chose que l'école publique. Et certains enfants, je les vois évoluer sur les 3 années. Et je me dis, on leur a fait un vrai cadeau. Et on a fait aussi un cadeau, je pense en particulier à un enfant. L'autre jour, on a invité, je suis avec une collègue, on a invité les parents à venir discuter, un rendez-vous pour parler de l'enfant, etc. Et avec ce matériel, avec cette pédagogie, on peut aussi réconcilier les parents qui n'étaient pas dans un amour pour l'école, souvent avec des difficultés qu'ils ont vécues eux-mêmes avec l'école étant enfants. Et souvent, ils sont le plus éloignés possible de l'école parce que ils mettent leur enfant à l'école pour des questions de garderie et puis parce que c'est une obligation. Mais ils sont pas du tout investis. Et là, ça m'arrive très souvent de prendre le matériel, par exemple, de mathématiques qui est juste extraordinaire, le système décimal, l'explication du système décimal qu'on touche avec les mains. Moi, je le prends et je fais la présentation aux parents. Et là, je vois dans la tête les yeux des parents et puis même les enfants qui disent waouh, on partage la même chose et puis ça parle à mon papa, ça parle à ma maman et ils ont l'air de comprendre. Enfin, et plein de fois c'est si j'avais eu ça quand j'étais petit. Voilà, c'est très émotionnel quand on commence à partager cette pédagogie. Rien que pour ça, je reste dans le public et c'est un cadeau.
Voilà, donc on fait pas de publicité, puisque l'école publique, elle est gratuite, et évidemment, et on peut toujours déménager dans le quartier de votre école, Armel Péon. Plus sérieusement, là, voilà, on a un panégyrique la pédagogie Montessori par des enseignantes investies, qui connaissent bien leur sujet, qui nous disent que ça fonctionne, et on entend un véritable bonheur à faire comme ça. Qu'est-ce qui explique, finalement, qu'après toutes ces expériences... On pense aussi à Céline Alvarez, dont les livres se sont tellement bien vendus, qui certes panache un peu la méthode, mais se revendique d'inspiration Montessori. Comment ces méthodes ne sont pas plus répandues en France, Bérangère Colli? C'est pas quelque chose que j'appelle spécialement de mes vœux à titre personnel. C'est une vraie question.
Alors, c'est une question difficile. Je ne sais pas si je pourrais répondre en quelques minutes à cette question-là. Peut-être juste une hypothèse. Lorsqu'on regarde l'histoire, on s'aperçoit que les pédagogies sont réceptionnées par l'école française, alors je dis volontairement française, avec l'idée qu'il faudrait adapter toujours les pédagogies à l'esprit français. Alors, c'est l'époque qui veut ça aussi. On pense que une nationalité correspond à ce qu'on appelle un génie. Alors, on a un génie français, comme on a un génie allemand ou un génie italien. Et donc, il faudrait adapter les pédagogies qui arrivent de l'étranger à un contexte national. Or, il se trouve que notre école française est étroitement liée à l'organisation aussi de la République et au creuset dans lequel se forme le futur citoyen. Et donc, il y a un caractère national, mais qui est aussi politique, très fort de l'école, ce qui fait que ce modèle français, il est, alors je dis pas par nature, mais historiquement, on voit qu'il est un peu rétif à ce qui pourrait arriver de l'extérieur et qui viendrait bousculer un petit peu cette organisation-là. Là, qui a été pensé d'une certaine manière avec la laïcité, la liberté, l'égalité, la fraternité, etc. On voit par exemple que l'école maternelle française est très influencée d'abord par Froebel, et puis quand arrive la Première Guerre mondiale, ben Froebel, on a plus trop envie d'avoir cette référence-là. Donc, on va petit à petit, plus facilement se tourner vers Montessori dans les années 20, par exemple. Alors, c'est une hypothèse, mais cette hypothèse dirait que finalement, il faut toujours adapter, bien d'une certaine manière, c'est comme si on ne changeait jamais en adaptant toujours à quelque chose qui finalement reste pérenne, puisque le modèle reste toujours le même, quels que soient les apports extérieurs qu'on fait. Je ne sais pas si c'est clair.
Est-ce que dans ce modèle, et peut-être ça va éclaircir pour ceux pour qui ça ne le serait pas, l'élève, selon l'école française, ce n'est pas du tout l'élève selon Maria Montessori, élève qui est d'ailleurs un enfant, pour reprendre le titre de son livre, et c'est que cette vision de l'enfant-élève n'est pas la même des deux côtés, donc école traditionnelle française et puis éducation Montessori. Et c'est ça la grande différence.
Alors, c'est sûr que c'est une des différences. Alors, je ne sais pas si c'est une conception de l'élève ou si c'est la coupure entre élève et enfant. Clairement, dans le modèle de l'école qu'on dirait classique, il y a une coupure où, alors selon les enseignants, cette coupure elle est plus ou moins grande, mais il y a une coupure quand même assez nette entre la famille et l'école, entre l'élève et l'enfant. On parle même parfois de métier d'élève, ce qui est quand même extrêmement fort. Et on a la conception de l'école maternelle comme la préparation au métier d'élève qui commencerait officiellement au cours préparatoire. Alors chose qui a été modifiée.
Ça commence avec Jules Ferry pour aller vite, et puis finalement c'est réactif. Même aujourd'hui, il y a peu de temps, par exemple, en juin 2023, quand Emmanuel Macron dit voilà, les élèves devraient passer plus de temps à l'école dans la journée. Il faut peut-être rétrécir le temps de vacances parce que plus on est à l'école, plus on est soumis à de meilleures influences qu'à celles qu'on pourrait avoir à l'extérieur, dans sa famille ou dans son quartier.
Effectivement, il y a un modèle qui, clairement, n'articule pas de la même manière la famille et la cité par l'école. On l'a entendu d'ailleurs dans les interventions précédentes, on sent que le rapport à la famille, le rapport aux parents est différent, même si je pense quand même que dans la tradition française, la tradition de la maternelle française est beaucoup plus souple en réalité, ce qui explique aussi peut-être d'une autre manière le fait que ça soit moins facile d'appliquer ou de mettre en place cette pédagogie en 6-12 ans, parce que justement la coupure, la césure entre famille et école est peut-être traditionnellement plus grande, peut-être en 6-12 que en 3-6, où il y a une tradition chez les enseignantes et les enseignants de maternelle de dialogue avec les parents.
Notre si précieuse école maternelle. Merci beaucoup, Bérangère Colli. Merci, Nadia Hamidi. Et merci, Armelle Perron, de Public Montessori. J'adresse également mes remerciements à toute l'équipe qui a participé à la préparation, Laura Dutèche-Pérez, Françoise Lefloc qui réalise, et Valentin Bobinet qui était à la prise de son aujourd'hui.